Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrices pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Suède, peintre, muraliste, des œuvres et des talents, vous allez voir. Bonjour Suède.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir, parce que c'est vrai que par rapport à ce que vous réalisez, est quand même complètement, on va dire bluffant, oui, mais surtout très créatif, bien évidemment. Et puis surtout sur des repères, quand je parle d'œuvres et de talents, il y a quelques années, c'était pas forcément reconnu, le street art, alors c'est pas toujours la bonne expression maintenant, parce que c'est quand même des œuvres, justement, de l'art tout court. Mais c'est vrai que sur tout ce que vous œuvrez pour, par rapport au niveau des murs ou même sur le sol, je dirais que presque c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'art urbain, à la limite?
Oui, c'est de l'art urbain, mais en fait, du coup, nous, on arrive dans le street art, mais avant ça, il y avait quand même quelque chose qui existait, qui s'appelait le graffiti. Mm-hmm. Nous, on est issus de ça, en fait. Mm-hmm. Si le graffiti n'avait pas existé, le street art ne se serait pas développé.
Qui était très controversé, non compris aussi.
Ouais, c'est ce
aussi.
Que j'allais dire.
Ah ben non, mais super, au contraire,
c'était
on est bien en face.
C'était une pratique qui était dérangeante, enfin, les gens n'aimaient pas qu'on peigne les murs dans la rue.
Non, non, et ça, c'était autre chose. Il y avait un message à faire passer,
oui.
C'est ça,
hein, oui.
Par rapport à ça. Aujourd'hui, donc par rapport aux œuvres vous, que vous réalisez, est-ce que là, déjà, de parcours, hein, sans faire toute une story, mais comment vous êtes arrivé à effectivement maîtriser, on va dire ça. Et comment ça se passe? Parce que bon, c'est toute une évolution qui est quand même assez sensationnelle. Donc, si vous avez une présentation.
Alors, c'est parti. Bon, moi, j'ai toujours dessiné en autodidacte chez moi quand j'étais petite. Comme je viens de Normandie et que j'étais à la campagne, il n'y avait pas grand chose à faire, donc il fallait bien s'occuper. Donc, moi, c'était beaucoup créer, bricoler. Donc, ça, c'est depuis que je suis petite. Et c'est parti, ce truc de faire des grandes fresques, c'est parti sur un challenge via une rencontre d'appli de rencontre. Mm-hmm. En fait, j'ai rencontré un garçon qui m'a mis un peu à l'épreuve en me disant « T'es une femme, t'y arriveras pas.
» Et donc, ah oui, là, on est vraiment dans le stéréotype parfait.
Oui. Et donc, moi, ça m'a poussée en me disant « Ah oui, tu me dis ça, du coup, je vais le faire. »
Bon réflexe.
Voilà. Et j'ai commencé un peu de mon côté, toute seule, dans des caves abandonnées de lieux que j'avais à côté de chez moi, en fait. Et puis j'ai monté une page Insta, donc j'ai commencé à mettre mon travail en avant. Et là, j'ai eu plein de contacts d'artistes de Toulouse en me disant mais t'es qui, on t'a jamais vu, mais ce que tu fais, mais faut qu'on se rencontre. Et puis j'ai commencé du coup à aller peindre avec des gens qui étaient déjà là-dedans. Mm-hmm. Et puis en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai fait des bonnes rencontres. Je pense que j'ai eu des bonnes étoiles qui sont arrivées vers moi et qui m'ont donné ma chance de m'exprimer dans des grands événements, sur des beaux murs. J'ai eu beaucoup de chance.
Et la chance, oui, voilà, c'est déjà votre talent qui a... Vous avez provoqué votre chance parce que vous aviez déjà une facilité, on va dire, à ce niveau-là. Mais ça veut dire qu'il y en a qui ne vous connaissaient pas, comme s'il y avait déjà une communauté qui était en place.
Oui, il y a une grosse communauté à Toulouse, ouais.
Et c'est combien de personnes? Je sais pas, de représentation.
Je pourrais pas dire vraiment combien, mais je sais qu'à Toulouse, il y a une grosse, grosse scène entre graffiti et street art. On est très, très nombreux à être.
Et il y a un soutien entre vous, quoi. Parce que
oui.
Par rapport à cela, quand vous dites, attendez, on vous a jamais vu, où est-ce que t'es, etc. Donc il y a déjà un bon vivier
oui.
à ce niveau-là. Et donc là, des rencontres, quand vous dites, il y a eu des belles rencontres. Ça vous a permis de faire des projets de quelle ampleur dans ce cas-là?
En fait, c'est surtout ma rencontre avec Réseau, qui est du coup quand même un ancien du graffiti. Hein. Ça a été les premières équipes de graffeurs de Toulouse. Mm-hmm. C'est lui qui m'a contacté pour faire un festival qui s'appelle le Mister Freeze, qui est quand même bien connu sur Toulouse.
Ah oui,
et en fait, dans celui-là, celui qui m'a proposé, c'était un événement fait que pour les femmes. Donc c'était exclusivement des femmes qui étaient invitées dans cette édition-là.
D'accord.
Donc ça a été ma première fois face au grand public, on va dire. Mm-hmm. Et en fait, de fil en aiguille, une fois que le travail est montré à cette échelle-là, y a d'autres personnes qui nous contactent et d'autres personnes, et puis voilà.
Et ça, c'est votre activité principale, et vous faites autre chose à côté, ou
ouais.
C'est vraiment votre Ah, quand vous dites oui, c'est...
Alors, quand je dis oui, c'est que oui, j'ai une activité à côté. Donc, avant, quand j'ai commencé, j'étais en 35 heures en tant que responsable de magasin. Donc, je vais vraiment jongler entre ma vie pro réelle et cet art-là qui se mettait en place et qui me demandait de plus en plus de temps. Plus, voilà, ma vie de maman aussi.
Ah, super.
Et j'ai fait un choix il y a 2 ans d'arrêter ce poste de manager pour développer mon côté artistique. C'est pas vraiment passé comme je voulais.
Bravo, donc, au moins d'avoir continué.
J'ai quand même continué, bien sûr. Et là, donc, j'ai repris un petit travail à mi-temps pour compléter mes revenus, parce que c'est une réalité.
De toute façon, c'est effectivement compliqué, même si l'art, effectivement, ou street art, donc prend de la place. Mais c'est clair que pour effectivement compléter et assurer cette passion, c'est obligatoire, quoi.
Oui.
Maintenant, en étant maman, on s'imagine. Mais alors, comment vous gérez tout cet ensemble? Parce que là, je dirais que c'est presque 3 métiers là, qui se profilent. Comment vous gérez tout ça?
Eh bien, il faut savoir super bien jongler. Voilà. Comme avec des balles, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer tout ce qu'on doit faire dans une semaine. Donc bon, ça va, j'ai une maman qui est au top et qui me m'aide beaucoup à garder mon fils et à m'enlever quelques épines du pied quand ça coince.
Merci maman.
Ouais,
parfait,
les mamans, des valeurs sûres. Et puis je suis très déterminée. En fait, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un d'hyperactif, donc dans mes journées, je vais vraiment jusqu'à l'épuisement, en fait. Ça a toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été votre fonctionnement.
Ouais, moi je suis quelqu'un
de vous dépasser.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Mais est-ce qu'on peut faire le lien par rapport à ça? Parce que quand je parle du triptyque, là, d'activité, on va dire, sachant que, oui, pour moi aussi, étant maman, c'est quand même un vrai métier, hein, dans le sens noble de l'histoire. Mais comment, de votre créativité, d'inspiration, vous arrivez dans tout cet univers à avoir du temps? Parce que la créativité, l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. Comment vous arrivez à trouver une place pour justement, toutes les œuvres là que vous réalisez, vous arrivez à trouver le bon enclenchement, la bonne la belle idée? Comment ça se passe?
En fait, moi, ma créativité, elle vient par vagues. Il y a des fois où j'ai rien du tout qui vient. Et puis, il y a des semaines où ça bouillonne. Je sens qu'il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, en fait, ces moments-là... En fait, moi, déjà, j'ai dans ma pièce à vivre, j'ai mon bureau. Donc, à chaque minute que j'ai, que je peux grappiller un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, et je lance une œuvre et puis je la complète. Donc, des fois, ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais j'essaye d'utiliser chaque petit moment de vide. Je le mets dans ma créativité, en fait.
Donc, votre créativité, vu ce que vous venez de me dire, ça veut dire en même temps que sur en temps, c'est quoi ça? Donc, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour réaliser vos œuvres.
Ouais.
Ça peut être ce minima comme sur plusieurs mois. Mais de minima, c'est quand même sur plusieurs semaines, vu ce que j'entends, pour pouvoir réaliser. Je parle, alors forcément il y a des superficies qui vont faire la différence, mais si vous devez être chez vous justement et de vous accorder ce temps-là, c'est donc sur plusieurs semaines que vous allez opérer, parce qu'en fait c'est l'inspiration qui est là, vous ne la lâchez pas, c'est à ce moment-là que justement vous allez agir.
Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, si on parle de travail à la maison, des œuvres que je peux faire sur papier ou sur toile, ça va se passer comme ça. Donc c'est-à-dire que tout est installé à la maison, je fais chauffer mes pâtes, j'attends que ça cuise ou je fais un truc. Et puis entre deux, je vais grappiller un petit peu, je vais dessiner, je vais faire quelques trucs. Et d'accord. Après, si c'est des chantiers qui sont programmés, souvent on est prévenu bien en avance. Donc moi, je peux...
Oui, ça c'est en extérieur,
voilà,
donc c'est encore
je peux
autre
m'organiser
chose.
À faire garder mon fils ou à prendre des jours pour le travail. Mais en tout cas, dans le quotidien, quand je crée, c'est ça, c'est... Et je vais prendre une feuille, je vais commencer à lancer mon truc et puis voilà, je vais éteindre la machine, c'est fini, j'ai un autre truc à faire après, mais j'ai 5 minutes.
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est ce quotidien qui fait moins rêver, on le sait tous, par rapport, on va dire, tâches ménagères, et que vous arrivez tout de même à avoir l'inspiration dans ce quotidien-là. C'est ça qui m'interpelle. Sur effectivement ces moments-là, c'est pas en fin de ou quand c'est le calme, voyez, et que l'inspiration arrive plutôt posée, ça peut être complètement dans ce rythme de vie là, dans la journée,
ouais,
où l'inspiration peut venir. Moi, je pensais que c'était dans un silence, ça y est, et c'est là où on peut avoir cette créativité. Pas du tout.
Alors souvent, ça va commencer quand même dans un moment de repos où, bon, mon fils est au lit, je suis toute seule, voilà, tout est fait et je commence mon truc. Mais par contre, une fois que je l'ai lancé, une fois que j'ai ce truc-là qui est lancé sur mon papier, j'ai quelque chose en moi, une force là qui fait que je ne peux pas lâcher ce truc tant que je ne l'ai pas fini. Et je, voilà, dès que j'ai 5 minutes, je vais le faire en fait.
Est-ce que ça veut dire aussi que vous pouvez vous coucher à 3h du mat?
Oui.
Parce que...
Bah... Oui, ça m'est arrivé.
Et levé quand même à 7h le lendemain. Ouais. C'est bon, un enfant... Ok. Ah oui, donc vous êtes franchement atypique. Là, c'est... Non, mais attendez, c'est joli quand même comme rythme à ce niveau-là. Et quand vous parliez des œuvres en extérieur, je sais qu'il y a des œuvres donc, sur les murs que vous faites, mais au sol également. Vous pouvez expliquer un peu comment ça s'opère? Parce que bon, là, qu'on soit à Auch, à Rodez ou bien évidemment à Cahors, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent très bien nous écouter. Et par rapport à cela, vont certainement se retrouver dans vos propos. Mais c'est dans le sens du temps que ça représente. Et comment ça, oui, toute cette productivité se met en place, parce que les chantiers, moi j'appelle ça un chantier, j'espère que ça vous plaît comme mot,
oui, c'est très,
mais
c'est
que vous réalisez, c'est des superficies quand même de taille, et comment on vous sollicite, et quelle est cette productivité, donc qui, sur combien de temps, comment ça s'opère?
Après, ça dépend de l'endroit, ça dépend de ce qu'on va y faire. Il y a un travail préparatoire quand même à la maison, hein. On travaille sur des maquettes. Donc, du coup, on va venir, alors, on a un outil maintenant, vu qu'on est quand même en 2025, qui est le vidéoprojecteur. Mmh. Donc, en fait, nous, on va venir faire notre maquette sur une tablette ou sur un ordinateur.
D'accord.
Et le jour J, on va venir projeter notre maquette sur la surface. On va la décalquer, en fait. Et ça va nous éviter tout un travail de quadrillage. À l'époque, en fait, quand il n'y avait pas ça, on faisait un quadrillage pour avoir les proportions. Donc, sur les murs, on a cet outil et c'est quand même assez cool parce que c'est rapide.
Ouais, bah, adapté avec les outils innovants,
voilà. Au sol, ça marche pas. Donc, par exemple, pour le chantier de la rainerie.
Oui, chers auditeurs, quand même. C'était donc, je dis 2000 mètres carrés, c'est ça?
Ouais, 2000 mètres carrés. Ouais.
Vous avez fait réaliser ça avec une autre artiste?
Avec Julia Forma, ouais.
Voilà. Donc, félicitations à toutes les deux. Et là, la rainerie, donc, il y a un quartier donc, de Toulouse qui est très artistique de plus en plus.
Oui.
Et ça, j'avoue que avec vous, ben, on en est fiers. Il y a cette évolution-là, et que ça casse les codes. Mais par rapport à cela, comment ça s'est passé, justement, ce travail?
Et ben, du coup, là, par exemple, on a travaillé sur un quadrillage. Donc, ça veut dire que quand on est arrivé sur place, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est avec un cordeau. Donc, c'est un fil coloré en bleu.
Mm-hmm.
On le tend et on le claque au sol et ça trace une ligne. Et donc, ça, on l'a fait tous les mètres pour avoir, du coup, des carrés d'un mètre sur un mètre. Donc moi, je faisais des formes un peu aléatoires, donc ça allait. Mais Julia, elle faisait des visages. Il y avait un grand vase au milieu. Il y avait des fleurs. Elle avait besoin de repères. Donc la première chose qu'on a fait, c'est ça. C'est tracer un énorme quadrillage sur toute la surface pour qu'elle puisse avoir les repères pour faire ses proportions.
Ok. Non, parce que moi, la proportion, ça, c'est clair qu'au côté artistique sur les grandes superficies, c'est toujours ça qui m'a étonné. C'est comment vous aviez effectivement vos repères. À ce niveau-là. Alors, c'est vrai, vous avez dit le carré.
Ouais.
Vous avez dit tout à l'heure, mince, c'est pas le quadrillage.
Oui, le quadrillage. Ouais.
Donc, là-dessus, c'est un élément. Alors, vous, par rapport à Julia qui est dans cet portrait, vous, j'aime bien, c'est la phrase, c'est celui de la quadrature du cercle ou l'art de faire rentrer un esprit carré dans des ronds, parce que c'est la géométrie qui vous a toujours, je sais pas, interpellé, qui vous accapare, qui. Pourquoi c'est C'est qu'est-ce que ça représente pour vous à ce niveau-là?
Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais petite, j'étais nulle en maths, mais nulle. J'ai déjà redoublé deux fois pour ça, vraiment. Donc, j'avais vraiment pas d'attrait avec cette matière. Hein. Mais je me rappelle que j'avais eu un livre, en fait, qui me disait que la géométrie, elle était partout. Dans toute chose de la nature, que la nature produisait. Mm-hmm. Le nombre d'or, tout ça. Donc... Je sais pas, ça c'est venu tout seul en fait. Hein. La première fois qu'on m'a passé un compas, j'ai fait des rosaces à l'infini, j'en faisais partout, des énormes, des plus énormes, et puis en fait j'ai jamais quitté ça quoi.
Et ça c'est un lien, parce que quand vous me dites ça, moi ça me fait penser au mandala. Vous savez, là où on écrit, où on se pose justement.
Ouais.
Et si on est concentré là-dessus, on se vide la tête. Hein. Et vous, ça a un lien à ce niveau-là, sans aller jusqu'à la culture, on va dire?
Bah, c'est passé, dans ma pratique, j'ai fait un peu de mandala. Bon, alors, c'est pas quelque chose que j'ai montré au public, ça, c'était quand j'étais jeune. Mais donc, en fait, on est parti de la rosace, puis il y a eu le mandala. Et puis après, j'ai repris des études, en fait, pour être graphiste. Donc là, il y a eu quelque chose, il y a eu une ouverture graphique par le biais de ces études-là. Et là, j'ai cherché à développer quand même une identité graphique qui était propre à moi.
Quand vous dites que vous avez repris vos études de graphisme, c'est à quel moment ? C'est parce que ça y est, c'était en parallèle de votre travail ou c'est quand vous avez arrêté que vous avez fait... Non, c'était avant tout cela.
En fait, ouais, j'ai pas du tout fait d'études dans l'art. Moi, je suis autodidacte dans tout ce que je sais faire, en fait. Mais j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir. Et c'est quand j'ai eu mon fils, j'ai eu du temps pour me poser, pour réfléchir
à
la vie.
Donc c'est après, donc vraiment une reconversion ou un perfectionnement, on va dire, du savoir et artistique.
Je me suis dit, vu que j'aime ça, et puis que j'ai 30 ans, et puis je sais pas, mon fils, je sais que ça a créé beaucoup de questionnements en moi, le fait d'être maman et tout ça. Mm-hmm. Et comme j'ai eu du temps pour réfléchir, je me suis dit... autant lier l'utile à l'agréable. Si je peux bosser et en même temps créer, ce serait vraiment génial. Donc, je suis rentrée dans un cursus de formation pour être graphiste.
Ah oui, vous lâchez rien, vous. Donc, au moment. Est-ce que vous savez rien faire ou pas du tout ?
Non. J'apprends à faire ça en ce moment. À m'asseoir dans mon canapé et à regarder la nature.
Vous tenez. Oh là ! Alors, attendez, là, vous en avez une en face de vous qui est normande comme vous. Ça, j'avoue que pour moi, c'est lâcher prise pendant des années. J'ai cru que ça servait à rien. Mais là-dessus, vous tenez combien de temps, là, à rien faire ? Juste pour par humour ?
Mais là, j'y arrive beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de me dire. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Déjà, quand j'étais jeune, pour moi, dormir, c'était du temps perdu. Parce qu'on faisait rien.
Ah, ouais, d'accord.
Mais là, j'arrive parce que je vieillis un peu. Et puis que, quand même, j'arrive à 40 ans.
C'est un beau chiffre.
Oui, c'est
un beau chiffre. En plus, c'est bien parce que c'est la quadrature du cercle. Vous êtes en plein dans le fil conducteur de votre vie. Mais c'est clair que oui, bien sûr, c'est une étape. Oui, je vous l'accorde.
Mais oui, j'arrive à me faire des petits 20 minutes, une demi-heure à rien faire. Mais j'ai toujours quelque chose qui me rattrape. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ci.
D'ailleurs, vous êtes très active parce que l'été de 2024, il y avait une belle opération que vous aviez fait avec plusieurs artistes. Vous aviez donc fêté l'été. Et à ce niveau-là, comment ça s'était justement passé ? Parce que ça, c'était effectivement des œuvres, chacun présentait quelque chose. Mmh. Vous aviez fait effectivement toute la partie liée à la géométrie.
Oui.
Mais comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Vous aviez ce jour-là une créativité qui était déjà... alors préparer, c'est peut-être pas ça, mais vous saviez ce que vous deviez faire, où il y avait une ouverture, et c'était au hasard, à l'inspiration du jour que vous avez mis en place votre travail.
C'était
superbe, mais c'était
carte blanche. Donc moi, quand c'est comme ça, c'est souvent au feeling. Hein. J'arrive sur le mur, j'ai mes couleurs, je me dis ok, l'endroit est comme ça, on va faire ça.
Ah, et donc, du coup, vous n'êtes pas du tout... Autant il y a des œuvres qui sont préparées, on parlait des 2000 mètres carrés tout à l'heure, tandis que là, vous pouvez avoir très bien être sollicité. Et là, c'est vraiment le jour J, à l'heure précise, que ça y est, ça se déclenche, mais vous ne savez pas, vous, du tout, une heure avant, ce que vous alliez faire. Mais vous savez que, il va falloir quand même surprendre. Et là, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inspiration, comment vous opérez.
Je pense que c'est à force de le faire.
C'est un truc très bête. Hein,
oui, mais je pense que c'est à force de faire aussi qu'on prend confiance en soi, en fait. Je pense que au début, j'étais pas capable de faire ça, ou en tout cas, si je faisais ça, j'étais pas dans une, intérieurement, j'étais très stressée. Mais je pense que en fait, avec tout ce que j'ai fait ces dernières années, je me suis prouvé aussi à moi-même que j'étais capable de faire des choses bien.
Ah, mais c'est plus que bien. C'est plus que bien, Swell. Là-dessus, on peut pas. D'ailleurs, c'est SW.
C'était SWD.
Voilà.
Et c'était un peu compliqué parce que les gens m'appelaient SWD et puis j'aimais pas trop ce truc. Donc maintenant, ça s'écrit
S-O-U-E-D. Voilà.
Comme un prénom, en fait.
Ok. S-O-U-E-D. Voilà. Et donc sur Instagram, si vous voulez aller voir, là vous découvrirez par rapport à tout cela et vous mettrez effectivement des images sur les propos d'aujourd'hui. Alors après, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup à ce niveau-là, c'est les vitraux. Qui vous interpelle et que sur lequel vous aimeriez bien maintenant pouvoir travailler. Alors moi, quand on dit vitraux, tout de suite, je pense spiritualité, les églises, les cathédrales et autres, les musées, on va dire anciens dans le sens patrimoine, c'est cela ?
Bah,
c'est carrément autre chose, dans le sens un peu plus contemporain.
Ouais, c'est plutôt ça. Parce que bon, avec le travail que je propose, je pense pas pouvoir investir une église ou une cathédrale, quoique. Pourquoi pas? Pourquoi?
Alors, qu'est-ce que vous proposez, justement? Là, chers auditeurs, vous allez voir, par rapport à ce qui peut être proposé,
mais moi, là,
par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que Vitro, moi, c'est sous cet angle-là, mais vous avez forcément un autre angle que nous tous, on ne connaît pas. Et c'est quoi exactement comme travail?
Eh bien, du coup, moi, ce que je voyais plutôt, c'est... on voit souvent dans les maisons, hein, alors peut-être pas les constructions récentes, mais les constructions d'avant, il y a des vitraux chez les gens, en fait.
Oui, tout
et
à fait.
Et ce qui est joli, en fait, c'est quand la lumière tape sur le vitrail, à l'intérieur de la maison, ça fait des jolies lumières. Enfin, c'est
donc,
hyper
c'est le côté
beau.
Contemporain, et c'est ça que vous voudriez multiplier.
Bah, c'est un savoir, pour moi, qui est quand même ancien, hein, le vitrail,
bah, oui.
Ça existe depuis longtemps, mais ce serait plutôt du coup de pouvoir un peu moderniser une pratique qui est ancienne, quoi, pour qu'elle puisse perdurer dans le temps finalement.
D'accord.
Et qu'elle puisse peut-être s'inscrire dans un environnement urbain, de se dire bah finalement il y a un intérêt à garder ce genre de pratique ancienne parce que c'est beau.
Ah oui, il peut y avoir même des musées qui se sont lancés et qui se lanceront encore, qui peuvent être interpellés là-dessus. Je dirais presque même des écoles artistiques. Pourquoi pas, hein, après là ce sont des idées à ce niveau-là. Après sur le côté effectivement, parce que je sais que c'est le côté mystère que vous aimez bien, est-ce que ça peut être aussi sur, parce que là on parle du monde urbain, est-ce que ça peut être envisagé puisqu'elle est néo-ruraux maintenant et c'est vraiment voilà un univers vrai, authentique, sincère et qui veut être dans la durée, est-ce qu'il peut y avoir justement aussi une ouverture, sortir de l'urbain et aller un peu plus dans cette direction,
oui.
Pour être, au contraire, amener cette créativité,
oui,
voyez,
clairement.
Pour ouvrir le champ. Puisque...
Moi, je ne suis pas du tout arrêtée au côté urbain de ma pratique, parce que déjà, moi-même, je ne suis pas citadine. J'habite à la campagne, je viens de la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne.
Mmh.
Et justement, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir ramener ce côté urbain dans les campagnes, parce que j'ai l'impression que les gens des campagnes sont toujours oubliés. Il y a toujours des choses en ville, il y a toujours beaucoup d'événements culturels en ville, mais dès qu'on sort du centre-ville, c'est un peu compliqué. Et justement, pourquoi pas faire voyager la culture dans les lieux un peu isolés? Parce que les gens ont besoin de ça aussi.
Ah, mais c'est pour ça, je suis encore plus ravie et satisfaite de vous accueillir, parce que justement, de mon émission, c'est parce que justement, ça est aussi bien pour les gens de Cahors, chez autres, et que tout ne se passe pas forcément à Toulouse, en l'occurrence, et que là, oui, il y a énormément de bâtiments liés après, proches des Bastides et autres. Enfin, il y a pas mal de lieux qui peuvent effectivement être utilisés, où les vitraux, au niveau contemporain en tout cas, se développent. Énormément, un peu comme la danse et autres, on retrouve ça pas mal en dehors effectivement de la ville. Vous de votre côté, au niveau de la, je dirais de la toute la partie peinture murale, hein, on va dire ça comme ça. Au niveau des écoles et autres, je sais pas, le lien, il y en a qui sont en lien avec vous. Par rapport à ça, il y a une interférence, une intergénération qui se
ouais.
met en place. Vous voyez qu'il y en a de plus en plus qui sont quand même enfin, qui ouais. sont là et qui restent, parce que c'est aussi un vrai travail, vous l'avez démontré aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y en a pas mal qui sont...
Oui, il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent, parce qu'en fait, ce qui est bien dans ce genre de contact, c'est qu'il y a un projet pédagogique derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver pour faire une fresque et partir. Généralement, les écoles, ce qu'elles nous demandent, c'est de faire intervenir les enfants de l'école, mm-hmm. faire un travail préparatoire, de réflexion, de présentation du travail. Et du coup, là, eux, ils sont trop contents, les enfants. Ils sont 4 ans dans cette école. Ils voient leurs fresques tous les jours, ils savent que c'est eux qui l'ont fait avec l'artiste.
Mmh.
Et puis, bon, bah, ça intègre aussi de la culture dans le programme, donc c'est chouette, quoi.
Donc ça, vous opérez, vous, dans ce,
alors
dans
moi,
ce
j'ai
sens
eu, j'ai eu fait un
parce
peu.
Que malheureusement, on va arriver à la fin, mais je sais que là-dessus, vous transmettez. Donc s'il y avait ce message un peu, ces paroles de fin dans
moi,
la transmission.
Moi, je l'ai fait un peu avec les petits, mais je l'ai surtout fait avec une école de Toulouse, là, qui s'appelle MJM, qui est une école privée d'art, on va dire, de pratique un peu digitale, on va dire. Donc photographe, vidéaste, mm-hmm. Graphiste et tout ça. Où là, du coup, on a eu des beaux projets. On a fait une scéno pour le métronome. On a fait un plateau télé entier dans lequel on a été filmé pendant les portes ouvertes. Enfin, Du coup, là, j'étais avec des jeunes adultes, certains en reconversion professionnelle, qui, du coup, avec qui j'ai travaillé en atelier, donc en workshop, ça s'appelle. Mm-hmm. Et à la fin, on rend le projet. Et ça, c'était génial. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai refait cette année. Je vais le refaire normalement en avril avec eux, là.
Ah, super.
Et à chaque fois, ça croise pas mal de choses. Le clutch, le métronome. Donc, pour eux, sur leur CV, c'est génial. Ces jeunes adultes qui ne sont pas encore professionnels parce qu'ils sont encore en études. Ils ont quelque chose de très concret à mettre sur leur CV, quoi.
Ah, mais super. Mais comme phrase de fin, moi, ça me va bien. Donc, nouvelle génération, vous avez bien entendu. Donc, Soued, S-O-U-E-D, sur Instagram.
C'est ça.
Allez voir. Et merci infiniment, parce que la gestion de talent, les œuvres que vous réalisez, franchement, c'est un plus pour notre futur. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.